What's up, what's up? On est back. Le draft est littéralement dans une semaine. FX, je te pose. Ben, en fait, je vais présenter mes panélistes aujourd'hui. FX, Terry. Et on a un petit nouveau dans l'équipe, les boys. On accueille Robbie, qui est un expert de la NCAA. Et c'est clairement l'épisode parfait pour avoir un gars qui est expert en NCAA. Les gars, on est à une semaine du draft. FX, est-ce que tu as hâte de voir finalement là, qui va aller où? Puis toutes les questions, là, tout va être réglé, là.
Oui, mais surtout, tu sais, chez les fans des Vikings, beaucoup, on voit comme c'est le draft de toute l'histoire des Vikings, parce que là, on va peut-être enfin aller chercher un franchise QB qui n'a pas été fait depuis Frank Tarkenton des années 60. Peut-être à part Culpepper, il y a 25 ans de ça. Très, très, très important. Il y a possiblement un gros trade-up qui va se faire pour aller chercher un Drake May, un Jaden Daniels. Ça va beaucoup bouger. Il y a beaucoup, beaucoup de receveurs qui rentrent cette année, puis je pense que toutes les équipes peuvent en profiter, que ce soit en première ronde jusqu'en quatrième ronde, d'aller chercher des receveurs. Ils vont peut-être pas avoir tous des impacts tout de suite, mais ils vont définitivement en avoir plus tard. Des projects receveurs, des projects QB qui embarquent, ça va être un beau draft cette année.
On sait, justement, tu l'as mentionné, les Vikings ont besoin d'un QB. Qu'est-ce qu'on donne pour avancer, là?
Ça va dépendre où on se rend. Je sais qu'ils vont à tout prix éviter de toucher le choix de première ronde de l'an prochain. Pas pour rien qu'ils sont allés chercher le choix de première ronde des Texans pour se donner du jeu. T'sais, on vous donne le 11, le 23, puis tu sais, des picks de quatrième ronde au besoin, cette espèce de petit lousse de picks-là. Dans l'idéal, y a-tu quelqu'un qui va glisser, puis on va prier le petit Jésus qui va se rendre à nous? C'est une possibilité. Mais tu sais, le 11 puis le 23 vont définitivement partir, que ce soit pour se rendre au numéro 5 avec les Chargers pour, mettons, aller essayer d'aller chercher J.J. McCarthy ou un peu plus pour aller chercher le numéro 3.
Mais justement, là, les Vikings rencontraient J.J. McCarthy aujourd'hui. Là. Est-ce que tu as eu des insides de tes groupes Vikings ou...
On n'a pas les insides des rencontres. On sait pas trop ce qu'ils mangent, on sait pas trop ce qu'ils font. Ils font leur devoir, par contre, d'aller rencontrer seul à seul, dans leur environnement. Ils font vraiment leur devoir. C'est clair qu'un QB qui va se faire drafter, même si c'est Sam Darnold qui démarre la saison, il y a un QB qui se fait drafter, peu importe. Lequel, ça pointe un peu partout, à droite, à gauche, il n'y a rien de 100% clair. Drake May est très, très, très apprécié. Le QB coach au Vikings, c'est Josh McCowns qui a coaché au secondaire Drake May. Petite connexion ici. Est-ce que c'est exactement Drake May qu'on va aller chercher? Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de coulé dans le béton par rapport.
Puis j'en connais un qui attend de pied ferme le repêchage, un certain Justin Jefferson, qui attend de voir c'est qui va y lancer le ballon dans le futur.
Il tient le crayon, il tient le papier, il va y toucher une fois que le draft est fait.
Exactement. Terry, t'es back sur le podcast, ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu. Écoute, toi qui n'es pas vraiment un fan d'aucune équipe dans la NFL, mais t'aimes bien tes Georgia Bulldogs de Philadelphie.
ouais, donc Eagles par défaut. Eagles par défaut.
À peu près ça. De quoi t'as hâte avec le repêchage qui s'en vient? Puis qu'est-ce que tu t'attends de voir des Eagles?
Ce que je m'attends de voir des Eagles en premier, c'est de ne pas repêcher de joueurs en première ronde. Trade back, va chercher des choix pour les années futures. L'équipe est là. T'as aucun besoin prenant qui peut être rempli à la place où tu vas drafter. Les pauvres Eagles ont drafté 22e. C'est pas une place que tu as besoin d'être avec l'équipe que tu as présentement. Moi, j'espère qu'ils vont trade down, aller chercher beaucoup de choix futurs dans les années futures. C'est ce que j'espère pour les Eagles. Ça va être un draft plate à regarder pour les fans des Eagles, mais trade down, s'il vous plaît. Va chercher des choix pour des années futures. Ça va être important de rebâtir l'équipe. Ce que je m'attends au draft, on parlait des Vikings et de peut-être une possibilité de J.J. McCarthy. On en reviendra tantôt en parlant des carrières, mais si tu veux J.J. McCarthy, pas besoin de trade-up pour ça, là. Si tout le monde voit ce que moi je vois, J.J. McCarthy, wesh, il sera pas drafté dans les 5 premiers QB certains, là. Faudrait être désespéré pour aller toucher à ça, là.
Oh, on a-tu déjà une bold prediction? Est-ce que FX est d'accord avec ça? Oui, David. Ah, t'es d'accord aussi, toi aussi?
Oh, oui.
Et puis, on finit ça avec toi, David. T'es un fan des Raiders. La même question, à quoi on peut s'attendre des Raiders dans ce draft-là? On sait, là, on a lâché Jimmy Garoppolo, on a eu Aiden O'Connell un peu cette saison. Est-ce qu'on y va avec un carrière? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les Raiders, on échange Josh. Ben oui, on laisse partir Josh Jacobs aux Packers. Qu'est-ce qui se passe avec les Raiders? Puis à quoi on s'attend dans le draft?
Vite, vite de même, je pense que Jimmy Garoppolo, c'était clair et net qui s'en allait. On a fait l'acquisition de Gardner Minshew. Bon vétéran, performe bien. Je pense qu'il n'y a jamais eu un wide receiver corps aussi garni que ça, je crois. Fait qu'avec une belle ligne offensive, renouveau dans l'équipe. Je pense qu'on va avoir une belle compétition de carrière. On est dans nos corners, Gardner Minshew. Puis je suis certain que les Raiders vont aller chercher un carrière, que ça soit en deuxième round ou troisième, je pense. Dépendamment de comment ça va bouger et les échanges qu'il va avoir en début de première ronde, je pense qu'il y a un plan de match qui va se mettre en branle. Michael Penix ne me surprendrait pas, surtout s'ils sont capables d'aller chercher en début de deuxième ronde. Je trouve qu'il fitterait dans la nouvelle mentalité. Puis, ce qu'il y a par rapport à Josh Jacobs, je ne suis pas trop inquiet. Zamir White, les quatre dernières games qu'il a jouées, a démontré qu'il pouvait être l'homme de la situation.
All right. Bon, ben les gars, on n'attend pas plus que ça. Ben en fait, pour moi, mes Packers, sincèrement, j'espère juste une continuité. Là. Je m'attendais peut-être à repêcher un running back. Là, on signe Josh Jacobs. Je pense pas qu'on va aller, on va se tourner vers un running back. Je pense plus qu'on va peut-être aller vers encore de la ligne défensive ou... Peut-être on va retourner vers les cornerbacks, un DB là, avec Eric Stokes qui n'est pas capable de rester en santé. On a eu une belle... Il y a Valentine puis Ballantyne qui ont émergé cette année. Donc j'ai hâte de voir ça pour les Packers. Je te dirais qu'ils sont un peu stack un peu partout, mais sinon en première ronde, je m'attends vraiment à de la ligne offensive pour protéger Jordan Love, qui est le carrière maintenant d'avenir des Packers. Fait que les boys, on commence tout de suite avec nos top 5. En fait, aujourd'hui, on va rouler avec les positions fantasy, vu qu'on est un podcast de fantasy. J'imagine que tout le monde qui va écouter ont excessivement hâte de voir où les recrues vont arriver puis dans quelle situation, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer entre un gars qui a énormément plus de talent qu'un autre, mais l'autre a vraiment une meilleure situation. Je pense à quelqu'un qui est le QB qui va se faire repêcher avec les Bears, ou celui qui s'en va avec les Pats, on parle pas de la même game. Là. Est-ce que vous pensez peut-être qu'il y a des recrues cette année qu'on va pouvoir repêcher en redraft même? Là, of course, Marvin Harrison Jr., qui est probablement un des... qui va être probablement le numéro 1-1 dans beaucoup, beaucoup de Dynasty cette année. Écoute, FX?
Pour les corps arrière, tu sais, encore une fois, la position va vraiment changer. Mais tu sais, Caleb Williams, comme c'est coulé, c'est séché dans le béton que les Bears vont le pogner. First round overall, puis il n'y a pas de problème avec ça. Caleb Williams, c'est talent générationnel. Il va tomber avec quand même un bon corps de receveur, qui est un bon tight end avec Cole Kmet. Seule affaire, la ligne offensive va peut-être pas l'avantager, mais ce n'est pas une situation qui est étrange à Caleb Williams. Tu sais, c'est un athlète, il va être capable de performer. Ils n'auront probablement pas le choix de le starter là, jour 1. Caleb Williams va être capable. Fait qu'en redraft, en dynasty, Caleb Williams, first round overall, ça pourrait être un bon choix. Ben, peut-être pas en redraft, mais en dynasty, Caleb Williams, first overall, c'est un bon choix.
Ouais.
C'est un gars qui va courir aussi un peu. Un peu comme les Bears seront pas dépareillés, là, un peu comme Justin Fields va être capable d'aller faire des bonnes performances pour un propriétaire dynasty de Caleb Williams. Ça va être quelque chose. Ça, c'est sûr que personne ne peut se tromper en allant le pogner, lui. Niveau situationnel, là, c'est juste après, c'est l'espèce de foutoir, savoir, tu sais, Washington, Patriots, c'est sûr qu'ils vont probablement pogner un corps arrière. C'est pas des excellentes situations, c'est pas des gars que tu vas nécessairement te pitcher dessus pour aller chercher tout de suite, parce qu'il y a tellement de travail à faire au niveau de des lignes offensives, à la fois chez les Pats que chez les Washington. Patch ça, puis au niveau des receveurs aussi, tu sais, Jaden Daniels, il va lancer le ballon à qui à Washington, à part Terry McLaurin. T'sais, il y a Austin Eckler, mais Austin Eckler, on a vu ce que ça a donné l'an passé. À moins qu'il revive, reboost sa carrière comme il faut. Je vois pas Washington donner les conditions gagnantes à Jaden Daniel pour faire des grosses performances dans la NFL présentement. Fait que question d'atterrissage, c'est le gros flou après Caleb Williams.
Les gars, je pose la question. Vous êtes en Rebuild Dynasty pour repêcher 101. Premier au total, on y va avec quoi? Caleb Williams ou Marvin Harrison?
Marvin Harrison, à 100 000 à l'heure, la question ne se pose même pas. Tu prends le wide receiver, c'est pas juste un talent générationnel, c'est la génération de la génération. Marvin Harrison, c'est ce que tu as de mieux qui va sortir du draft chez les wide receivers, corps arrière et running back. On parlera pas des tight ends, ça on va revenir tantôt, probablement. Vu qu'on parle de fantasy, il faut quand même parler du tight end du draft. Mais Marvin Harrison, c'est tu sautes dessus, tu ne te poses pas de questions. Tu parlais de redraft tantôt.
Ouais.
Tant qu'à moi, en redraft, il y a quatre gars et quatre gars seulement qui sont indépendants de où ils vont tomber. C'est les seuls. T'en as juste quatre. T'as Caleb Williams, parce qu'on le sait, qui va tomber à Chicago. Donc, c'est un petit peu cheaté. On sait qu'il va avoir une position favorable comparativement, comme FX l'a dit, probablement Drake May et Daniels qui vont tomber à Washington et aux Pats, respectivement. Après ça, t'as Harrison et Neighbors comme wide receiver. D'après moi, n'importe qui va lui lancer le ballon. T'sais, Harrison, c'est talent générationnel, mais Neighbors n'est pas des années-lumière en arrière non plus. Là. Excellent wide receiver. Et le dernier, c'est Brock Bowers, tight end. Peu importe où il va tomber, ça, c'est l'héritier de Travis Kelce. Là. Il s'en vient, c'est le gros tight end du futur. Ces quatre-là sont les seuls que moi, en redraft, peu importe où ils tombent, je jette un look s'ils sont disponibles quand moi, je vais drafter à une position qui m'est adéquate.
All right. David, toi, 101, tu repêches qui?
101, très d'accord. Pour moi, la question aussi est évidente. Ça va être Marvin Harrison. Surtout si un tandem qui se crée avec Kyler Murray, ce que je trouve qui peut être super intéressant parce qu'il peut prolonger le jeu, ce qui peut être favorable pour Marvin. Ensuite, il y a Sean Lib aussi, ton vrai premier wide receiver. Donc, de loin, lui. Un peu dans la même lignée, là, moi aussi, les joueurs un peu qu'on vient de nommer, je trouve que c'est toutes des valeurs sûres. J'irais même rajouter Romeo Ndunzi à tout ça, qui, moi, est un gros coup de cœur, un receveur physique aussi qui a une belle présence. Fait que je pense que ça tournera autour de ça.
Cette semaine, Sharp a posté une couple de questions sur la page de Trop Fort pour la Ligue, sur TikTok, sur Instagram, même sur Twitter. Où la question était, est-ce que tu échangerais plus Joe Burrow, Justin Herbert et Kyler Murray? Et durant la saison, Kyler Murray, là, personne ne voulait toucher à ça. Tout le monde disait que sa carrière était finie. Et c'est te dire à quel point Marvin Harrison est dominant qu'il pourrait relancer la valeur et la carrière de Kyler Murray. C'est pas rien dire, FX, là.
Non, c'est pas rien dire, puis je fais partie de ça. Tu sais, dans la question, justement, moi, j'étais comme, échange aucun des trois. S'il y en a vraiment, t'es pogné à la gorge, faut vraiment que t'en échanges un des trois. Peut-être Kyler Murray, mais ça serait quasiment un regret, parce que, justement, qu'est-ce qu'il va valoir avec un aussi bon receveur? Les Cardinals sont pas tout nus dans la rue, mais c'est pas tout à fait complet. Sauf que, tu sais, à part quelques défauts, Marvin Harrison Jr., c'est ça, c'est... Il va faire honneur à son père, puis pas juste un peu. Lui, dans n'importe quelle situation, il va être capable de performer. Puis je pense que même aux Cardinals, que sans les mépriser, j'ai pas nécessairement la plus haute estime de cette équipe-là présentement. Il va réussir, puis Kyler Murray va bénéficier à ça à 100%. Je suis pas mal sûr.
Les boys, on commence ça dans le vif du sujet. On va commencer avec les corps arrière. On va y aller chacun avec notre top 5. Terry, qui est ton top 5 des corps arrière cette année?
Top 5, on y va dans l'ordre. Numéro 1, clear-cut, Caleb Williams. Talent générationnel, on le sait, toutes les éloges. Go Caleb. Numéro 2, c'est là que la décision se split. Moi, je comprends toute la hype de Jaden Daniels. Je comprends, mais moi, c'est Drake May qui est numéro 2. Drake May est mon numéro 2 derrière Caleb depuis 2 ans. Je le suis, j'adore Drake May. J'en ai parlé l'année passée que Drake May s'en venait. J'aime le gars. Je peux pas t'expliquer pourquoi je l'aime plus que Daniels, mais je l'aime plus que Daniels. Numéro 3, Jaden Daniels, évidemment. Aucune question à se poser. Ces gars-là vont sortir 1, 2, 3. Ils ne devraient pas avoir de surprise, à moins d'un trade-up. Là. On n'est jamais à l'abri de... Tout le monde le sait, le draft, c'est un tirage à pile ou face, c'est un lancer de dés. Celui qui peut prédire ça... à la lettre avec les trades et les joueurs, ben rends-toi à Vegas, mon ami, puis mets un peu d'argent là-dessus.
Exact, ouais.
Il n'y en a pas beaucoup qui prédisent ça parfait. Mon numéro 4, et c'est là que généralement les gens sont très surpris, Bo Nix. Moi, Bo Nix d'Oregon, c'est mon coup de cœur. Depuis plusieurs années, j'attendais de voir ce gars-là à NFL. Moi, j'ai confiance en ce gars-là. Et numéro 4, on finit avec Michael Penix Jr. Excellent corps arrière. Numéro 5, pardon. Numéro 5, Penix Jr. Excellent cœur arrière, pocket passer, j'aime ça en plus. C'est pas nécessairement un gars. C'est pas le gars qui va courir avec le ballon, amener ça d'un bout à l'autre du terrain. C'est pas un spécimen physique incroyable quand il joue. Pocket passer, le gars est patient, une belle présence dans le pocket, bouge bien, se déplace bien. Penix numéro 5 pour moi. Puis j'ai hâte de voir où il va tomber, par exemple. J'ai vraiment hâte de voir où il va tomber parce que avec un système adéquat pour lui. Lui, ça peut faire toute la différence. C'est un gars qui a très gros à gagner ou perdre, d'après moi, selon l'équipe dans laquelle il tombe.
Ouais, OK. Je trouve ça intéressant. Peut-être les Giants qui ont besoin d'un carrière, probablement besoin d'un carrière, puis on sait qu'en première ronde, on s'enligne plus vers un receveur. On va voir ce que ça va faire. Peut-être aller chercher Penix plus tard dans le repêchage. J'ai entendu beaucoup de choses cette saison aussi, côté Drake May, qui pourrait être même meilleur que Caleb Williams, durant que ça faisait jaser avec Caleb Williams. Vous pensez quoi de ça, Robbie?
Je te dirais que c'est difficile de mettre niveau talent un joueur au même niveau que Caleb Williams. Je pense que Drake May, ce qui joue beaucoup en sa faveur, c'est son âge et son gabarit. Il a 21 ans, il est jeune, il fait 6 pieds 5, 220 livres, je pense. C'est un phénomène, fait penser beaucoup à Josh Allen. C'est un peu dans cette même vibe-là. Fait que moi, je un peu comme on vient de dire, moi, c'est mon deuxième aussi, mais je suis pas là à le mettre au niveau du talent que Caleb Williams a, malheureusement.
Bon, ben justement, Roby, je vais te demander ton top 5 des carrières.
Yes, sans surprise, moi aussi, mon numéro 1, c'est Caleb Williams, gagnant du trophée Heisman en 2022. Quand même 93 passes de TD en 3 ans. Elle va finir avec les Bears. Fait que c'est banqué, c'est sûr que c'est lui. Mon numéro 2, ça va être Drake May aussi. Comme je viens de dire, son âge et son gabarit et joue en sa faveur. Ensuite, si ça va débloquer avec Washington, si les armes vont fonctionner pour lui, en tout cas, je l'espère, la ligne offensive va avoir besoin de s'améliorer. Par la suite, mon numéro 3, ça va être Jaden Daniels. Pour suivre un peu le cercle. Heisman winner cette année, une énorme saison, un athlète complet, court beaucoup avec le ballon, capable de tenir le jeu, belle précision. Je pense qu'il a couru 4-5 sur le 40 verges, donc on a quand même une belle pointe de vitesse.
Ouais. Ouais.
Ensuite, mon numéro 4, faire un peu différent. Moi, c'est Michael Penix. Moi, c'est mon coup de cœur. J'ai aimé suivre Washington cette année. Je trouve qu'ils ont eu un super beau parcours. Et un peu plus vieux, il va avoir 24 ans après le draft environ. Même si je le place numéro 4, je pense que peut-être J.J. McCarthy risque de se faire drafter avant lui à cause de l'âge, justement. Mais Michael Penix, regarde, cette année, 4903 verges par la passe, 36 passes de TD. Il a roulé 3 gros receveurs dans son club qui sont allés chercher chacun une des saisons de 1000 verges. Soit cette année ou l'année dernière. Donc, j'aimerais bien qu'il finisse avec les Raiders. Puis, numéro 5, j'ai hésité, mais je suis finalement allé avec J.J. McCarthy, surtout parce que c'est un winner, c'est un leader. Par contre, il va avoir beaucoup de choses à améliorer. Je trouve qu'il struggle un peu avec les deep patterns. Je trouve qu'il y a de la misère avec ses balles en profondeur. Il force souvent quelques ballons. Donc, il va avoir des ajustements à faire. Okay. J'ai hâte de voir que ça va finir.
Justement, on a une petite différence là. On a Terry qui n'a pas J.J. McCarthy, que beaucoup ont dans le top 10 du repêchage. Même là, qu'est-ce qui explique Terry que t'es vraiment pas haut sur J.J. McCarthy?
C'est un peu comme l'année passée avec Anthony Richardson. Moi, il y a toujours un corps arrière que j'aime pas. Je l'aime pas. Je peux pas expliquer pourquoi. Probablement sa coupe de cheveux. Mais je le déteste d'une haine profonde. Moi, ça me fait du bien. Ça me remonte moi-même de détester quelqu'un d'autre qui est connu. C'est soit de la jalousie interne que je comprends pas. Non, de J.J. McCarthy, je trouve qu'il y a beaucoup de failles. Des failles qui marinent pas bien avec la NFL. C'est autant, on va dire que Bo Nix a des failles, mais Bo Nix, ses qualités sont des qualités NFL. Et ses failles sont aucun problème côté NFL, selon moi. Ce qui est totalement le contraire avec J.J. McCarthy. Je trouve que ses forces sont NCAA et ses faiblesses sont NFL. Faut se le dire, le football est le sport majeur américain dans lequel tes rookies et tes professionnels ne jouent pas pantoute la même game. La NCAA et la NFL, ce n'est pas le même monde. Si tu regardes les gars qui arrivent au baseball, mettons, qui ont joué junior 3A au baseball, puis qui montent dans MLB, c'est pratiquement le même sport, ils font la même chose. Mais la NCAA et la NFL, ce n'est pas sur la même planète, là. C'est très, très différent. Il y a eu beaucoup de gars qui étaient des gros joueurs NCAA qui n'ont jamais réussi à NFL, puis tu as des gars qui étaient ordinaires NCAA qui ont été des superstars NFL. Moi, J.J. McCarthy, bon gars NCAA, pas NFL.
All right, j'aime ça. Puis tu penses qu'il va sortir quelle ronde, mettons?
Ben, il va sortir dans la première ronde. Ouais. Il y a quelqu'un qui va se faire attraper, là. Combien de corps arrière ont été des busts ou qui ont performé en dessous de ce qu'on attendait dans les 5 dernières années, dans les 2 dernières années?
Mais quand on regarde le repêchage de 2020, les carrières qu'on disait que c'était une des meilleures QV, finalement, là, on pense à Trevor Lawrence qui commence à struggle un peu avec les Jaguars. Zach Wilson, c'est ça. Après ça, on y va avec Mac Jones. Après ça, on y va avec Justin Fields, que là, il va être deuxième derrière Russell Wilson à Pittsburgh.
T'as oublié Trey Lance.
Même oublié Trey
Lance. Comme tout le monde l'a oublié, en fait. Là,
il existe encore, lui. Il existe.
QB 3 à Dallas. C'était supposé être le Project QB, puis...
Brock Purdy en a décidé autrement. Mais justement, une équipe qui pourrait justement trade up pour J.J. McCarthy, c'était Vikings, FX, et les Vikings de Sharp. Je voudrais pas que quand ils écoutent le podcast, il semble que c'est juste les Vikings non plus. Écoute, qu'est-ce que tu vois dans ton top 5? Puis j'imagine qu'il va y avoir J.J. McCarthy, parce que je pense que t'en parlais quand même en biais tantôt.
J'ai pas autant de haine que Terry par rapport à J.J. McCarthy. Je vais commencer mon top 5, puis on va glisser vers lui. Numéro 1, Caleb Williams. Tout était dit, j'en ai déjà assez discuté autour de lui. Pas besoin de déblatérer plus que ça. Jaden Daniels, c'est mon numéro 2. Énorme performance qui n'a pas rapport à LSU. Il est très athlétique. Il est très solide aussi. C'est un bon, tu sais, c'est une menace au sol, c'est une menace à la passe. C'est pas le plus. Tu sais, il y a une bonne consistance. Il a réussi à s'appuyer sur Malik Nabers puis Brian Thomas Jr. comme il faut. Au niveau des trois profondeurs de terrain, il est un très bon passeur. Il y a quand même, tu sais, des fois, il y a un petit peu de manque de consistance à certains niveaux, mais dans l'ensemble, il est juste pas aussi prêt que Caleb Williams. C'est juste pas un talent aussi générationnel que Caleb Williams. Mais t'enlèves Caleb Williams, Jaden Daniels, c'est un first round overall. Tu le mets dans d'autres draft class, c'est un first round overall, Jaden Daniels. C'est pas à hésiter ça, à mes yeux.
Y a-tu, puis là je vous demande aux trois, là, y a-tu une comparaison un peu avec Jaden Daniels pour les gens qui le connaissent un peu moins, mettons, dans la NFL? Y a-tu un gars qui a un carrière qui est un peu même prototype?
C'est une bonne question, le fait que c'est un dual threat QB, mais c'est comme si tu prenais Lamar Jackson, tu réduis un peu sa compétence à la course, puis tu améliores un peu. Pas que Lamar Jackson, c'est pas un bon passeur, c'est juste qu'il l'a pas assez montré assez souvent. Moi, je trouve que c'est pas un running back qui passe bien. Moi, je trouve que c'est un carrière qui court bien. Je ne fais pas partie de cette classe de haters-là par rapport à Lamar Jackson, mais Jaden Daniels, c'est une bonne question, mais je ne me suis même pas penché à savoir ça serait quelle bonne comparaison. Pour Drake May, numéro 3, pourquoi je l'ai mis numéro 3? C'est un produit qui est moins fini que Jaden Daniels. C'est un gars qui est moins prêt à l'emploi pour les équipes. C'est pas le gars le plus consistant. Tu vas regarder ses games, surtout la dernière saison, pas eu de Josh Down, moins consistant. Mais par contre, ça pourrait être un sacré projet. C'est un gars qui, une fois bien entouré, tu le mets un an sur le banc, il peut se développer. Il y a un bon plafond devant lui, juste que je pense que s'il rentre dans la NFL dès demain matin, surtout s'il va chez les Patriots et est obligé de performer, ça va le casser. Ça va être un Mac Jones. Ça va être Mac Jones numéro 2. Je ne le compare pas à Mac Jones, c'est juste en termes de situation. Il va se faire casser à aller chez les Patriots ou peut-être à Washington. C'est pas le gars le plus près. Ça reste quand même un gars assez athlétique. Je pense que Robbie, tu l'avais comparé à Josh Allen, mais je le compare un peu plus à Justin Herbert. Très bon pour courir, juste c'est pas nécessairement son go-to à chaque fois. Il hésite un peu des fois, il a le ballon longtemps dans les mains, ça l'aide pas nécessairement, puis ça met de la pression sur la ligne offensive. Fait que tu sais, avec une ligne offensive inexistante ou pas assez bonne, est-ce qu'il va réussir autant? On verra. Ça reste quand même un gars assez athlétique. Drake May numéro 3, puis c'est pas un problème. Après ça, on tombe dans une autre case. J'ai mis J.J. McCarthy numéro 4. Oh. J'ai, j'ai quand même des doutes entourant J.J. McCarthy, puis je me dis que s'il est drafté haut parmi les Vikings, je vais quand même avoir un espèce de pincement à l'estomac, un pincement dans le ventre, tu sais, cette espèce de stress qui donne envie de faire caca, là, ça donne, ça, je vais quand même avoir ça tout le long de la saison jusqu'à temps que J.J. McCarthy se donne raison à lui-même. Par contre, pour sa productivité dans un système qui était très basé sur la course, c'était une très bonne productivité. C'est un gars qui a été capable d'être assez clutch par beaucoup de moments, puis d'avoir été utilisé par un gars comme Jim Harbaugh dans un système très quasiment professionnel de la manière dont ça a été roulé par Jim Harbaugh à Michigan. C'est un gars qui est prêt pour ce genre de système-là, puis c'est pour ça qu'à mes yeux, je pense pas qu'il mérite autant d'être mis à l'écart. Par contre, moi aussi, j'ai quand même été surpris de voir l'espèce de gros hype-up, genre hey, J.J. McCarthy, numéro 2, s'en va à Washington, ça. Pas mal plus de difficultés à l'avaler, à la limite. Ça laisserait plus de choix s'il part à Washington pour mes Vikings entre Jaden Daniels et Drake May. Je serais un peu plus content. Mais non, c'est ça. Je reste quand même des doutes autour de J.J. McCarthy. Sauf que je le passe quand même quatrième parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses à faire avec lui. C'est pas un produit fini, encore une fois. Les prochains QB, c'est pas des gars que je pense que si t'es fait starter dans leur équipe propre cette saison, ça va tout de suite être une réussite. Au contraire, il faut que tu fasses plus attention à ça. Ensuite de ça, j'ai Michael Penix Jr. Ça me fait mal au cœur, mais c'est vraiment juste à cause de son âge et ses blessures passées que je l'ai mis aussi bas. J'ai subi. On dirait que c'est tout déchiré ce qu'un QB aurait besoin d'avoir. C'est assez triste pour ça. Son âge, c'est moins un problème aujourd'hui, j'ai l'impression, au l'âge, mais tu peux quand même profiter du maximum des belles années de ton carrière quand tu le repêches. Ouais, mais c'est ça. Et c'est comme beaucoup trop de blessures graves qui te fait faire comme... Tu te fais pas mal sourciller. Par contre, il a montré qu'il était quand même un bon athlète sans être un espèce de carrière qui va courir avec le ballon à perfection. Bon athlète, bon scrambler, c'est un des QB qui est capable de mieux éviter les sacs. Fait que dans pochette, même s'il aperce, il est capable de bien se dérouler, d'amener les passes. Une bonne précision dans l'ensemble, aux trois niveaux de la profondeur du terrain. Il a été bien entouré puis il a très bien exploité ses deux receveurs, Paul et Odunze. Vraiment, lui, dans un système, notamment les Vikings, il est souvent vu, hey, ça va être soit les Vikings, des fois les Raiders, comme les deux équipes qui ont plus de chances de comme mettre la main sur un Michael Penix. Je pense que lui, tu l'assois sur un banc un an derrière un vétéran ou dans un bon système, tu le prépares, puis après ça, tu le mets avec les bonnes armes, puis tu peux faire assez de dégâts par la passe principalement, pas nécessairement par la course. Fait que, d'un point de vue fantasy, je pense qu'il pourrait être assez intéressant, mais c'est pas le gars sur qui tu vas te pitcher tout de suite. Fait que, on verra bien où est-ce qu'il va, atterrir.
Ben c'est ça, le carrière le futur carrière des Vikings va arriver dans une situation qui est assez exceptionnelle en ayant le top 2 des meilleurs receveurs de la Ligue avec un jeune en Jordan Addison qui a prouvé des choses incroyables l'an dernier, puis peut-être dans le top 3 des tight ends, top 2 des tight ends en TJ Hawkinson. On se retrouve avec un Aaron Jones en plus qui est capable d'attraper des ballons. Aaron Jones doit rester en santé, mais pour l'avoir vu avec les Packers, sincèrement... Il n'y a pas
une meilleure situation.
Et écoute, on pourrait le mettre day one comme Caleb Williams, un gars comme ça, puis juste dire, écoute, ta job est simple, là, les gars vont faire les jeux. C'est à peu près ça, les Vikings, cette saison. Robbie, tantôt, quand j'ai posé la question à Jaden Daniels, quel prototype de carrière qu'on pourrait comparer dans la NFL, tu avais l'air de vouloir répondre?
Ouais, non, c'est ça. J'ai lu plusieurs articles, j'ai regardé une couple d'affaires, puis il y a beaucoup de gens qui disaient que Washington allait peut-être se tourner vers un Drake May pour pas répéter l'erreur Robert Griffin III.
Oh.
Puis je trouve qu'on se rapproche quand même. Je dis pas que Jaden Daniels, loin de là, je l'adore. J'aimerais même ça que les Raiders échangent pour aller chercher. Mais je trouve qu'on est dans le même un peu, même pattern de player.
OK, j'aime bien. Parfait. Fait que Robert Griffin III pour Jaden Daniels, ça pourrait quand même être similaire. Les gars, c'est tout pour les quarterbacks. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous avez peut-être un outsider de cette position-là? Moi, personnellement, j'ai un petit favori. Spencer Rattler. Moi, je l'ai vu dans QB Apprentice sur Netflix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'en parler de mon petit Spencer?
Spencer Rattler, je lui souhaite du succès juste parce qu'il a perdu sa job à cause de Caleb Williams. La raison, tu sais, pauvre gars, tu perds ta job de starter, tu perds des tu sais, des bons matchs, des, tu perds des années, des reps de QB1 à cause d'un talent générationnel. Tu retournes te réinventer à South Carolina. T'as un bon corps arrière, là. C'est un vrai bon corps arrière de pocket. Moi, c'est mon numéro 6. Là. Son test était rendu à numéro 6. Moi, je mettais Spencer Rattler. Là. Fait que Spencer Rattler, oui. Puis, c'est un nom qu'on n'entend pas souvent. Donc, pour ce qui est des... Bon, on va dire sleeper. Si tu connais NCA, c'est pas vraiment un sleeper. Tu sais que Spencer Rattler joue du bon football. En plus, une université qui affronte d'autres très grosses universités dans leur division. Donc, c'est difficile pour eux encore plus. Fait que face à l'adversité, ils triomphent. Mais si tu es un amateur, disons, qui suit pas trop la NCAA, qui est plus NFL, Spencer Rattler te dira pas grand-chose, mais va le voir sur YouTube. Check ce qu'il est capable de faire. Bon corps arrière, avec une belle histoire derrière lui. Le gars n'abandonne jamais. Moi, un gars qui abandonne pas, je mets un vieux 2 là-dessus pour qu'il y ait du succès à n'importe quel niveau.
Non, j'aime bien ce que j'entends parce que moi, j'ai suivi un peu sa carrière. Là, c'est comme un peu Justin Fields aussi qui était dans la série QB Apprentice. Fait que, pour moi, c'était comme un peu tous des gars. Puis il y a même Sam Hartman aussi qui était dans cette série-là. Fait que, c'est tous des gars qui maintenant sont comme rendus au draft, repêchés dans la NFL. Puis c'est des gars que je souhaite du succès. Ou sinon, on n'a pas parlé de Jordan Travis des Seminoles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait 6e, 7e?
Je te dirais que moi, peut-être numéro 8, un peu comme Terry, j'aurais Spencer Rattler numéro 6, mais mon petit sleeper, ça ne te dérange pas, je fasse une petite parenthèse, numéro 7, moi c'est Michael Pratt de Tulane. Peut-être une division que les gens écoutent un petit peu moins au niveau NCAA. Je trouve que le gars il a un gros hype présentement, il a amené du gros football. Je recommande aux fans d'aller regarder des highlights de lui pour être super surpris. Puis je pense que ça pourrait être pas un Brock Purdy, là, mais je pense que ça pourrait être un carrière qui pourrait surprendre à la bonne place. Puis avec le bon temps, justement, peut-être sur le bench à apprendre le système et tout. On est Jordan Travis. Moi, je l'adore. On l'a vu, l'offensive de Florida State peut écrouler sans lui, malheureusement. Je pense que c'est un bon c'est un bon jeune, bon gabarit, très précis sur ses ballons, un peu gun, c'est un peu slingshot, je trouve son motion il va voir, la balle arrive à bonne place, placer vos ballons, en tout cas je pense que ça va être un QB qui va sortir peut-être troisième, quatrième rond, pour avoir aussi un beau.
All right. Les boys, on se transfère maintenant du côté des wide receivers. On sait, je pense que ça va être un consensus là, pratiquement pour votre top 3. Là, ça va être probablement Marvin Harrison, Neighbors puis Odunze, si je me trompe pas.
C'est pas mal ça, mais j'aurais tendance des fois à dire, soyez pas surpris si quelqu'un se pitch sur Odunze. Odunze pourrait partir avant Malik Neighbors, dépendamment des besoins.
Ah ouais?
Ouais. Je veux rien enlever à Malik Neighbors, mais... tu regardes Odunze performer dans des espèces d'attrapés très difficiles, de la double couverture. Tu vois à quel point ce gars-là, il sait ce qu'il fait. Même s'il ne regarde pas le ballon en arrière de lui, il va se revirer, il va être capable d'aller chercher le ballon. Il n'est pas parfait. C'est pas Marvin Harrison Jr. Mais moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui pourrait surprendre dans le draft, c'est Odunze, puis d'être pogné avant Malik Neighbors. Pas avant Marvin Harrison Jr., j'ai vu des mock drafts assez étranges où est-ce que Marvin Harrison Jr. tombait en bas du top 10, puis j'étais comme, ça va pas bien. Mais Odunze, je crois fortement en lui au draft, puis en lui tout simplement.
Puis mettons, la différence entre Odunze et Neighbors, ce serait quoi la majeure différence qui peut les différencier, là?
Je te dirais que c'est plus au niveau des contested catch que Odunze se démarque un peu plus que Malik Neighbors. Puis c'est quelque chose qui va pas mal l'aider dans la NFL. Malik Neighbors, ça reste un excellent receveur. C'est pas pour rien lui enlever. Juste des fois un peu difficile. Malik Neighbors, mettons qu'il pourrait moins l'aider, c'est des fois des espèces de... sa vitesse dans certaines courses comparé à Neighbors, que des fois tu vas voir ça un peu plus je le vois un peu plus fluide, mais tu sais je les mets quasiment avec ses quoi là, je dis pas Odunze absolument, je dis juste que Odunze à mes yeux pourrait surprendre, puis j'ai pas l'impression d'être le seul à voir ça.
Moi, je suis sur la même lancée. Fait que...
OK. Terry aussi?
Oui, 1, 2, 3.
Ça, c'est pas mal.
Oui, puis Odunze, c'est ça. Garoche-toi pas en bas du troisième s'il sort avant Neighbors. C'est possible. C'est ça pourrait être vu. Moi, je suis 100% d'accord.
OK, bon, ben je vais y aller avec votre 4 puis votre 5 d'abord. À moins que vous voulez parler un peu de Marvin Harrison, qu'est-ce qui fait qu'il est si spécial pour des gens qui écoutent zéro NCA?
Vite demain, Marvin Harrison, deux saisons assez incroyables de 1200 verges à peu près chacune. Je veux dire, oui, cette année surtout, pas un gros QB, réussi à performer pareil. C'est sûr que le système est là pour encadrer tout ça. Je pense que Ohio State est une offensive qui est très bien rodée. Sinon, ben, c'est un peu, comment je pourrais dire ça, l'athlétisme autour de ce gars-là, c'est son arbre de route, ses cuts, son elusiveness, sa rapidité. On a un 4,39 sur un 40 verges. Pour un gars de 6 pieds 3, 210, ça reste quand même un solide temps. All around, il est très polyvalent, il est bon dans tous les domaines.
C'est ce qui fait qu'il est si spécial. Moi, c'est son route running. Quand j'ai vu à quel point ce gars-là courait ses tracés, puis sur des... Vous pouvez aller regarder des highlights, là, mais quand il fait sa double cut, quand il va faire un fake post, c'est qu'il a un tracé intérieur plus deep, puis il va aller finalement en corner, il mange des demi-défensifs quand il fait ses doubles feintes-là. Je trouve ça hallucinant, puis c'est la séparation qu'il est capable de créer. Puis Dieu sait que la séparation dans la NFL, c'est quelque chose que beaucoup de fantasy managers recherchent et c'est aussi ce que les équipes recherchent. Quand tu crées de la séparation, écoute, le QB peut lancer une verge en arrière, une verge plus loin, puis écoute, c'est pas plus grave que ça. Demi-défensif et trois verges derrière. Là. Fait que je vais vous demander, Terry, ton top 5 rapidement, puis ben plus, mettons, ton 4-5. Là.
Mon 4-5, numéro 4, le pauvre oublié, Brian Thomas Jr., LSU. On va parler d'LSU, on va parler de Neighbors, on va parler de Jaden Daniels. N'oubliez pas Brian Thomas, le gars, il joue au football, il ball. S'il n'y avait pas Neighbors, il serait peut-être encore plus fort, plus de ballons. C'est sûr que c'est target split, mais le gars, il est bon. Là. C'est un très bon receveur. Mon cinquième, c'est là que on va surprendre tout le monde. Moi, j'aime ça la vitesse. Là. L'année passée, c'était Jalen Hyatt, mais mon cinquième, c'est Worthy de Texas. Le gars, oh mon Dieu. Quand il court, il floue. Tu sais, il a battu le record au 40, au combine. Je l'ai même pas vu. C'était flou tellement que c'était vite. C'est ridicule. C'est comme regarder un éclipse, ça frotte aux yeux. Une moment donné, je veux bien croire que c'est peut-être pas les meilleures mains du draft. C'est pas un Marvin Harrison. Mais tellement vite comme ça, rendu au niveau NFL où le millième de seconde est tellement important. D'arriver du point A au point B, c'est important. Moi, je fais le parallèle avec Jalen Hyatt parce que l'année passée, c'était Jalen Hyatt qui était le gars de speed. Tombé avec les Giants, avec Daniel Jones, saison extrêmement difficile pour X, Y, Z raisons. Moi, je n'ai pas décroché. Je suis encore confiant que Jalen Hyatt, par la vitesse, va avoir du succès à NFL. Même chose pour Xavier Worthy. Moi, c'est mon cinquième. C'est mon petit underdog. Je lui souhaite de réussir. C'est legit un très bon receiver.
Ben, on l'a vu énormément là, avec les Tyreek Hill. Même Marquise Brown qui n'est pas capable de se trouver une niche. Moi, personnellement, je crois sincèrement qu'avec Patrick Mahomes cette année, Marquise Brown qui est un peu le même type de receveur qu'un Tyreek Hill, on pourrait être capable de trouver... D'avoir du succès, surtout avec un coach comme Andy Reid qui va clairement trouver des façons de rendre Marquise Brown tout seul. Je trouve que justement, tu sais, Hyatt, oui, n'a pas eu la meilleure saison, mais quand même, on a eu des flashs de sa vitesse. On a vu que quand il partait sur un fade, écoute, faut que tu sois prêt à courir, man, parce que ce gars-là est rapide. Fait que j'adore le choix de la rapidité, mon Terry. Robbie, j'irai avec ton top 5 des wide receivers. En effet, là, Harrison, Neighbors, Odunze.
Exact. Moi, c'était Harrison, Odunze en deuxième, Malik Neighbors numéro 3. Encore une fois, les deux très proches. Sans aucun doute, numéro 4, Brian Thomas aussi. Malheureusement, l'oublier, je suis d'accord là-dessus. Si Malik Nabers serait pas là, il aurait pris beaucoup plus de place. Encore un solide receveur, très rapide, gros gabarit. Numéro 5, je vais emmener un nouveau nom aussi. Texas aussi, mais je vais y aller avec Adonai Mitchell. Depuis le Combine, c'est mon coup de cœur. Il a dominé à tous les niveaux au niveau du Combine. Son explosion est assez incroyable. Je trouve aussi, ce que j'aime beaucoup de lui, là, c'est le body control qu'il amène, puis la coordination de ses mains et ses yeux. Je trouve que c'est un atout qui est important. Puis je trouve que lui, c'est lui qui a le. En tout cas, au niveau de sa
Ouais.
sphère-là, qui est le meilleur. Je le trouve combatif, agressif. Fait que pour moi, je serais pas surpris de le voir sortir première ronde avec Buffalo. Je trouve que ça serait tout un atout.
Ben, Dieu sait comment que la NFL, c'est important. Tu as souvent des mains qui viennent de te déranger, ou sinon, on veut courir trop vite avec le ballon parce que le jeu va tellement rapidement. Fait qu'une coordination mains-yeux en étant en joint receveur, c'est tellement important. T'sais, on en a vu une couple, là. Un certain Quentin Johnston qui avait pas l'air de l'avoir trop durant la dernière saison. Une coupe de drop, lui-là.
Malheureusement,
Fait que,
malheureusement.
ouais, écoute, FX, je te laisse y aller, mais j'ai peut-être un nom qui me surprend qui n'est pas dans votre top 5. FX, ton top 5.
C'est ben, Marvin Harrison Jr., ex-aequo. Après ça, c'est du semi-ex-aequo Malik Nabers, Rome Odunze, Brian Thomas Jr., tout a été dit. Il y a quand même, à mes yeux, une espèce de séparation de classe entre le top 3 et Brian Thomas Jr. Pas énorme, mais tu sais, il y a certains qui mettent des fois plus haut, qui vont quand même essayer de placer un Brian Thomas dans des discussions qu'on a eues entre nous autres en dehors à l'extérieur du studio. Je pense à Étienne qui nous avait dit ah, moi, Brian Thomas Jr. au-dessus de Malik Nabers à mes yeux. Donc, tu sais, il y a quand même, il en a impressionné plus d'un. Après ça, moi, c'est Adonai Mitchell. C'est encore une fois, c'est pas une grosse surprise, mais quelqu'un que je pense qu'il va. Je le mets top 5 ex-aequo avec Troy Franklin d'Oregon, c'est Ladd McConkey, pas le produit le plus fini, pas le produit le plus sharp à tout moment, mais ça reste quand même un excellent route runner. Je trouve que c'est quelqu'un qui, dans un bon système, il va être excellent. Il va bien performer. Puis, tu sais, quand on regarde à peu près où est-ce qu'il pourrait ressortir, une équipe qui pourrait profiter de lui, ça serait soit les Bills ou même les Chiefs, deux équipes qui ont besoin quand même de receveurs, surtout si chez les Chiefs, il y en a un qui va peut-être faire de la prison, c'est pas clair encore. Ladd McConkey, je pense que dans un bon système, à mes yeux, ça va être une pas pire surprise.
OK. Surpris de voir que dans aucun de vos top 5, il y a Keon Coleman de Florida. Avant le début de la saison, beaucoup le voyaient vraiment quand même dans le top 5, là. De ce que moi, j'ai vu comme tape de Coleman, c'est un gars qui fait des routes absolument incroyables. Il est vraiment bon au route running. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas dans votre top 5, Robbie?
Keon Coleman, pour vrai, moi, il est proche. Je te dirais peut-être pas 6, mais 7, 8, ça va jouer là. Faut se rappeler que c'est le cousin de CeeDee Lamb aussi. C'est peut-être de famille. Super jeune aussi. Sa première année freshman à Spartiate, Michigan, il a tout cassé. Donc, c'est pas pour rien qu'il a commit là. Gros body, c'est un receveur qui est physique, qui a une présence contested catch aussi. Il est proche, mais pas encore pour être le top 5.
OK, puis Terry, un mot aussi à dire sur Coleman, un autre receveur aussi peut-être?
Pas autant un mot qu'un chiffre, un 40-461. J'ai déjà déboulé des marches plus vite que ça, là. Fait que non, c'est. Moi, c'est la vitesse. Moi, je suis un grand believer de la vitesse. Puis le 16 n'est pas tout. S'il jouait tight end, peut-être, là, un bon tight end de red zone, mais à 4,61, 40, quand tu as des gars comme Marvin Harrison puis Nabers qui courent flou, tu sais, sans nommer Worthy, bien sûr. Moi, j'étais un gars de vitesse. Le gars est juste passé rapide pour catcher mon œil. Il n'est pas en dehors du top 10, là. Moi, personnellement, c'est mon septième. Coleman. Ben, 7-8e débattable. Je le déteste pas, mais il n'est pas au niveau de ces gars-là. Moi, je pense que FX a tiré le ticket gagnant en disant que si, mettons, tu as tiers 1, tiers 2, tiers 3 des wide receivers, 1, 2, 3, c'est intouchable, c'est en haut. Après ça, tu fais une autre séparation. Pas que Coleman se retrouve dans le Certainement pas le tier 1. Tier 2, je pense pas. Ça va être plus bas que ça. C'est pas un gars qui va avoir un impact incroyable, selon moi.
OK, parfait. Bon, ben, j'aime ça. Maintenant, les gars, est-ce qu'on serait prêt à y aller avec le nerf de la guerre en fantasy football? Les running backs. Les running backs dorés, assez rares d'en avoir un bon qui reste en santé. On y va avec votre top 5. FX, je commence avec toi. Running back.
Mais les running backs, comme j'ai dit avant qu'on commence à enregistrer, plus je me penche sur la question, plus j'ai de la difficulté à les classer. Il y a quand même certaines évidences, là. C'est pas ça, mais j'ai parfois de la difficulté à essayer de comme. Ça va vraiment. La réussite de ces running backs-là va vraiment dépendre de l'utilisation qu'on en fait.
Puis je pense cette année, tu sais, c'est une QV qui est excessivement moins forte que l'an dernier. Là. Il n'y a pas de Bijan Robinson, il n'y a pas de Jahmyr Gibbs qui vont sortir. Il n'y a pas. Tu sais, à moins que je me trompe, il n'y a pas de running back qui devrait sortir en première ronde cette année. C'est une QV beaucoup moins forte. C'est beaucoup plus le contraire de l'an passé. Là, c'est receveur beaucoup cette année. Des bons carrières. Fait que je te laisse commencer ton top 5.
Moi, j'ai Trey Benson. Gut feeling, Trey Benson, c'est lui qui va mieux réussir que de tous les receveurs à mes yeux. C'est pas. Il a vraiment mené l'offensive de FSU. C'est niveau passeur, il y a eu un problème quand même, mais tu sais, d'avoir réussi à récupérer la passe au travers de ça. Je trouve qu'il a bien fait, puis que l'équipe qui va mettre la main sur Trey Benson, s'il se ramasse à glisser, on parle début troisième ronde, fin de troisième ronde au repêchage, l'équipe va être assez chanceuse. Ensuite de ça, à mes yeux, j'ai Jonathan Brooks, Jalen Wright, j'ai Blake Corum, un peu avec c'est quoi avec Buck Irving puis Audric Estimé. Ces trois-là, j'arrive pas. Ils ont tous un peu leur. Tous sont un peu un truc qui les démarque, mais je te dirais que essayer de faire une espèce de power ranking overall, pour moi, c'est comme tout. C'est un paquet, c'est un nuage. Puis, tu sais, c'est comme j'ai dit, plus je me penche sur la question, plus moins j'ai de réponses, on dirait. C'est. Moi, plus je fais mes devoirs, moins j'avance.
Puis, un true Benson, ça ressemble à quoi comme porteur de ballon? Gros porteur de ballon physique, plus skills. Quel système de jeu que tu pourrais voir dans la NFL?
C'est difficile. J'aurais de la difficulté à dire dans quel système tu peux le voir, mais tu sais, il a été capable. Ça a été un workhorse. Est-ce qu'il va être workhorse pour une équipe de la NFL jour 1? Non. Il n'y a aucun des joueurs cette année que je me dis ça va être le gars du premier jour. Il est correct pour attraper, juste pas le. Il est quand même pas peu pour attraper, mais ça, c'est pas nécessairement sa plus grosse force. Des pas pires bursts, pas pires accélérations. Il y a une bonne robustesse. Il manque juste un peu de flexibilité à certains niveaux. Des fois, se déplacer latéralement, des fois, c'était pas l'affaire la plus fluide à regarder des tapes que j'ai vues. J'ai pas tout vu, j'ai pas fait le. J'ai dit, mes devoirs sont peut-être pas tout à fait complets, mais tu sais, Trey Benson a quand même réussi à m'impressionner à ce niveau-là. La seule chose que je pense qui déclasse Jonathan Brooks dans beaucoup de classements, c'est sa blessure. C'est Jonathan Brooks, me semble, qui a pas terminé la saison, en fait, à cause d'une blessure. C'est peut-être la seule chose qui va qui le frappe malheureusement de manière négative au repêchage cette année.
All right. Fait que, rapidement, rappelez ton top 5.
Avec Trey Benson, j'avais dit Trey Benson, après ça, Jalen Wright, Jonathan Brooks. Après ça, j'ai mis un espèce de grappe de trois. C'était Blake Corum, Buck Irving, puis Audric Estimé.
Parfait. Terry, maintenant, ton top 5 de running back.
Semblable, mais différent. Moi, numéro 1, Trey Benson aussi. Je pense que, comme FX dit, s'il y en a un qui peut se démarquer cette année, pas une grosse cuvée de running back. D'après moi, ça s'explique dans le manque de talent au niveau réception de passe des running back. La plupart des running back qui sont là sont des workhorse back. Pour donner un exemple à ceux qui nous écoutent, Jahmyr Gibbs, qui a été drafté l'année passée, il n'est pas là-dedans. Tu n'as aucun running back qui est dans les top 10 qui ressemble à Jahmyr Gibbs. On va pas attraper des ballons comme ça, ça leur est pas naturel. Mais Trey Benson, moi, numéro 2, Jalen Wright. Ce gars-là aime ça faire mal à des êtres humains avec un ballon. C'est écœurant. Le nez dedans là, à Tennessee, c'est solide. Numéro 3, probablement, pas un talent générationnel, mais une intelligence et une patience générationnelle. Audric estimé. Il est le fun à voir jouer quand t'aimes les running backs. Il est patient, il est intelligent, il trouve les gaps. C'est pas le joueur avec les capacités physiques les plus fortes du draft, mais il compense tellement par son intelligence, sa gestion de son énergie, sa patience. Vraiment un beau running back à voir aller. Numéro 4, Blake Corum, Michigan, parce qu'il fallait que je plug Blake Corum quand même assez haut pour prouver que J.J. McCarthy n'avait rien à voir avec les succès de Michigan. Donc, Blake Corum a tout fait par lui-même. Je pense que des fois, il était tout seul sur le terrain. Et mon numéro 5, Jonathan Brooks, comme FX l'a mentionné, la blessure. On n'a pas vu la fin de la saison. Un petit peu weird. Puis des fois, j'ai comme l'impression, je ne sais pas pourquoi, là, excepté Bijan Robinson, qu'on place des running backs de Texas juste parce qu'ils jouent à Texas. Et Texas est réputé pour avoir des running backs incroyables depuis la nuit des temps.
Ouais.
Fait que Jonathan Brooks, cinquième, mettons, par défaut parce qu'il fallait le placer. Mais je me garde beaucoup de réserves avec Jonathan Brooks.
OK, puis ben, je vais te laisser y aller, Robbie, avant de compléter. Vas-y donc avec ton top 5, toi.
Parfait. Moi, pour un peu, ça va être pas mal les mêmes noms, peut-être pas dans le même ordre, mais en premier lieu, Jalen Wright, et j'aime la façon qu'il court avec le ballon. Il est violent, ce gars-là veut faire mal, tombe toujours par en avant. Il a une moyenne de 7,4 verges cette année. Il a splitté quasiment, je dirais, 50% de ses courses avec le deuxième running back là-bas, Simpson, et Joe Milton qui court avec le ballon. Donc, je trouve que pour le peu de place qu'il a eu, ce gars-là, il est dangereux sur à peu près toutes les zones. Fait que c'est mon numéro 1. Étant grand fan de Notre-Dame, j'avais pas le choix de mettre Audric estimé numéro 2. Et encore une fois, football IQ, intelligence, patience. J'aime aussi, c'est un train. C'est un gars qui va traîner du monde sur son dos. Encore là, manque un petit peu de speed, mais je le mets numéro 2 tout de même. Numéro 3, pour moi, Jonathan Brooks. Encore une fois, je pense que c'est le running back un peu plus le plus polyvalent du top que j'ai avec Trey Benson. Numéro 4, Blake Corum, quand même le high-time leader au niveau des TD à Michigan. Puis un peu comme Terry disait, moi aussi, il fallait que je le passe à quelque part parce que je ne suis pas un fan de Gigi. Pour ma part, c'est le gars de Red Zone, c'est le gars qui faisait des touchés là-bas. Ensuite, numéro 5, Trey Benson, à pas sous-estimer non plus. Force brute. Je pense que même si on a, c'est tous des workers, ces gars-là, c'est un peu des teints, c'est tous des gars qui sont plus physiques, justement. Par contre, Trey Benson, je pense que c'est lui qui va avoir peut-être le côté un peu plus receiving back le plus développé, ce qui va jouer en sa faveur. Ça, c'est un ordre de priorité. Je pense pas qu'au niveau du draft, ça peut jouer de même. Je pense que chaque équipe va aller drafter un peu le gars qui va fitter le mieux dans son système.
Ben justement, parlant de système, où est-ce que je voulais en venir? Blake Corum. Une équipe qui n'a pas tant de porteurs de ballon. On vient de se départir d'un Eckler, un certain Jim Harbaugh qui vient d'arriver. Est-ce qu'on pourrait revoir un duo avec Corum? Puis, tantôt, effectivement, tu disais, je pense pas qu'il y a de running back du premier jour. Écoute, c'est Gus Edwards, là. Est-ce que Corum peut clairement prendre la place, peut-être pas day one, là, mais deux, troisième semaine, à Gus Edwards, puis avoir le backfield pour le restant de la saison avec les Chargers?
Par rapport à Gus Edwards, c'est sûr que Blake Corum a sa chance durant le camp, durant la pré-saison. C'est difficile à quel point... c'est sûr que Jim Harbaugh, il aime ses gars. Il n'a pas arrêté de le répéter pendant la saison. Blake Corum en fait partie. Peut-être qu'au courant de la saison, il va avoir sa chance, notamment par rapport à Gus Edwards, mais j'ai quand même un peu foi en Gus Edwards dans un système par Jim Harbaugh, puis il me semble le coordonnateur offensif le nouveau coordonnateur offensif des Chargers aime beaucoup la course. C'est un gars run heavy. Peut-être que les trois vont avoir leur. Les trois, tu sais, Blake Corum en tant que porteur de ballon numéro 3 va avoir sa chance, peu importe, au courant de la saison. Ça suffit de le marquer. Par contre, le fait que overall, c'est pas une grosse année, j'ai pas des énormes feelings, j'ai pas des énormes flamèches. Je n'ai pas l'impression que ça va être le gros starter, mais moi, avec, je fais quand même partie de ceux qui pensent que, tu sais, Jim Harbaugh va le voir passer, oups, il va te le pogner, puis that's it.
Ouais.
Il va aller chercher ses gars, tu sais. Il y avait même la rumeur que t'étais prêt à renvoyer Justin Herbert juste pour aller chercher son McCarthy. Un peu moins crédible, puis pour des raisons financières, les Chargers peuvent probablement pas se départir de Herbert avant le draft. Je pense avant le 1er juin, une question de contrat. Pour le runner cette année. Fait que, mais oui, c'est sûr qu'un élément de son système collégial, je suis persuadé que Jim Harbaugh se fait plaisir avec. Peut-être pas cette année, l'an prochain probablement.
Toi, Terry, qui est super, ben, faut dire que McCarthy est pas bon, que Corum a tout fait. Est-ce que tu penses que Corum pourrait clairement prendre la place, le backfield du côté des Chargers?
Le backfield du côté des Chargers est ouvert à tous. Ma grand-mère pourrait faire l'équipe au lieu de Gus Edwards. J'ai rien contre Gus Edwards, mais c'est comme pas ton prime running back. Là.
Mais non, mais ce gars-là s'est amusé à tomber dans le red zone toute la saison l'an passé. Là.
Mais honnêtement, moi je pense que Chargers va attendre de voir le draft, mais a peut-être pas fini de magasiner. T'as des candidats à se faire échanger aussi. Là. T'as des équipes qui pourraient vouloir du capital avant le draft et qui ont plus qu'un running back, parce que maintenant, on regarde ça, des split backfield. Oui, c'est bien, mais des fois, t'as une richesse que tu peux investir pour aller chercher autre chose ailleurs qui est disponible entre tes mains. Et Chargers pourraient peut-être aller, comme on dit, kicker le tire, aller voir des noms comme, là, je vais donner un nom au hasard, un exemple au hasard. Mettons Zach Charbonnet, qui ne semble pas prêt à dépasser Kenneth Walker. Honnêtement, je prends Zach Charbonnet avant Trey Benson.
Okay.
Si c'est moi, là.
OK, puis tu vois, l'an dernier, Zach Charbonnet...
Blake Corum.
Mais Zach Charbonnet, justement, l'an dernier, c'est un running back qui est sorti quand, donc, troisième, quatrième, deuxième? Sorti en deuxième.
Faut pas se faire la peine, mais c'est là que ces gars-là vont sortir. Je ne pense pas qu'il y a un running back première ronde cette année. Parce que, la demande n'est pas là. De deux, la QV n'est pas forte. Les étoiles sont alignées pour avoir un no running back en first round.
Oui, ben c'est ça exactement. Les gars, vous n'avez pas parlé d'un porteur de ballon, Braylon Allen. Je ne sais pas, FX en a peut-être parlé rapidement. C'est le plus gros running back là, de ce que je vois dans le top. 6 pieds 2, 245 livres de Wisconsin.
4,40, c'est un 40 verges à 240, 45 livres. Ça arrive vite un train.
Ouais. Quand même assez solide. J'ai pas eu de gut feeling qui m'a fait genre ouais, ça va être un gars intéressant. C'est juste l'ensemble de la classe m'a jamais tant appelé ça. Pourquoi Brennan Allen, il va se faire drafter, il va peut-être avoir sa chance l'an prochain dans un système. Je me suis juste pas plus penché que ça. Mais oui, son physique et sa performance, son athlétisme dans l'ensemble est assez impressionnant. T'sais, une espèce de bonne balance. Briser des tackles pour aller chercher des gains supplémentaires. C'est le genre de truc que tu vas retrouver dans ce gars-là. Je sais que c'est pas le gars... Il prend des risques avec la balle. Il y a coupe de fumbles qui peuvent être coûteux. Puis, tu sais, s'il y a bien quelqu'un qui sait ça coûte combien des fumbles, c'est un fan des Vikings. Comment on a
chié
dans la pelle solide. Fait que, tu sais, des fois, ces espèces de côtés-là, ouais. Ces espèces de détails-là font que des running backs vont se déclasser.
Fait okay.
Mais ça peut être un bon projet. Il y a beaucoup, de porteurs de ballon qui peuvent être des bons projets sur un 2-3 ans au travers de ça. À se baser sur le physique, à se baser sur OK, y a-tu des bons instincts? Puis à partir de là, tu fais comment? OK, ben garde, travailler un peu plus sa lecture de la défense, comment qu'il servir sur ces espèces de points-là. Quand tu as le physique, quand tu as l'instinct, à partir de là, tu as un bon projet. C'est juste que si tu veux comme. J'ai besoin de mon running back numéro 1 ou running back numéro 2, dépendamment, puis je le veux demain matin prêt à l'emploi dans la grosse ligue. C'est pas cette année, puis ce sera pas Braylon Allen à mes yeux.
Ah, puis, tu sais, les porteurs de ballon, on le sait, là, il y a tellement d'émergence, des gars qui sont même pas draft, qui finalement deviennent something, un Austin Eckler, qu'il y a eu, tu sais, on va pas se le cacher, là, il y a eu des excellentes saisons avec les Chargers. Porter cette équipe-là, l'autre année d'avant. Là, cette année, ça a moins bien été, vieillesse, blessure, mais Austin Eckler a été incroyable et on draft.
C'est un autre exemple un peu récent, Kyren Williams aux Rams.
Oui, exact.
C'est un gars de cinquième ronde, il était oublié sa première année, mais tu sais, là, Cam, ils savent pas, les Rams ne savent pas trop quoi faire avec le running play. Le Cam Akers est envoyé aux Vikings. Là, c'est Karen Williams qui joue. Tabarouette, il a épaté la galerie, pas rien qu'un peu. Fait que, tu sais, des receveurs semi-connus qui tombent en 4-5e round, qui vont donner de la grosse performance.
Un Tank Dell, personne ne s'attendait à ça.
Non, exactement. Puis, tu sais, chez les receveurs, je pense que cette année, on va en avoir. Tu sais, tout le monde va essayer de chercher le Pukanakwa dans le draft. Il va essayer de chercher cette espèce de petite pépite-là, petite pépite d'or qui va tomber dans 4-5e round. Il n'en manquera pas cette année, certains, au niveau des receveurs. Moi, au niveau des porteurs de ballon, mais tout le monde peut surprendre. Tout le monde a sa chance, une fois drafté. Là.
Est-ce qu'on avait une mention honorable à faire du côté des running backs ou non?
Non, pas particulièrement.
Non?
Right. Non, pas nécessairement. Pour rajouter un peu ce que les gars ils ont dit, je suis d'accord, il n'y a pas de talent de first round cette année au niveau des running backs, mais j'aime la profondeur quand même. Je pense que chaque club NFL maintenant aussi avec la nouvelle façon, beaucoup de running backs, chaque club NFL a besoin de son workhorse un peu, de son power running back. On en a beaucoup dans ce draft-là. Je pense qu'il y a plus de gars qu'on peut le penser qui vont trouver un trou à des endroits qu'on risque de voir. Je pense pas qu'il y a des gars peut-être qui vont. Je ne parle pas de gars qui va faire 1000 verges, mais je parle qu'on risque d'en voir travailler dans le red zone et rentrer dans certains schémas de jeu. Là.
Ouais, ben moi, Brennan Allen qui rentre en dive dans la ligne de 2 à la ligne de 1, je ne me mettrais pas devant. Là.
Va voir Jalen Wright. Va voir Jalen Wright.
Ah ouais, de Tennessee, ouais. Non. Lui, je ne l'ai pas vu. Justement, ça, c'est un gars que je après le podcast. Mais allez, avec les noms que vous avez donnés, je vais aller voir plus de tape encore. Mais là, les gars, on est rendu au tight end. Écoute, il y a un talent générationnel. Puis Terry, je pense que c'est un gars de Georgia. Je te laisse l'honneur de nous parler de Brock Bowers.
Monsieur Brock Bowers, quel athlète. C'est le meilleur tight end à sortir de la NCAA depuis longtemps. Dans le fond, l'année passée, tu avais une grosse année de tight end. Je pense qu'on l'a vu avec les rookies qui sont arrivés. Il y en a qui ont épaté la galerie. Il y en a qui ont monté du beau potentiel. C'est une très forte année de tight end. L'année passée, cette année, c'est tout à fait le contraire. Ce n'est pas une grosse cuvée, mais il y en a un qui ressort, c'est Brock Bowers. Le gars est né pour attraper des ballons. Il a le size, il a la vitesse, il a le route running. Il peut courir avec le ballon. Il peut s'aligner comme slot receiver. Il peut s'aligner comme tight end. Inline, il peut bloquer. Il peut tout faire ce que tu veux sur le terrain de football. C'est une arme, c'est un couteau suisse d'offensive. C'est un tight end, là, on s'entend. Là, ce gars-là va sortir top 10 dans le draft à quelque part. Et l'équipe qui va l'avoir va être content. Là. Tu repenses, mettons, à Kansas City avec Travis Kelce. C'est le genre de joueur que tu as avec Brock Bowers. C'est un Travis Kelce à en devenir. Repense-y, là, est-ce que tu drafterais un gars comme ça pour avoir cette qualité de joueur à la position tight end et ne plus te soucier de la position tight end pour les 10 prochaines années tant que tu as de l'argent à lui fournir parce que ça va être le meilleur tight end de la NFL à un point dans sa carrière garantie.
Mais si on va plus proche que ça, il y en a un qui ça a moins bien été, un Kyle Pitts qui avait été repêché 4e par les Falcons. Qu'est-ce qui fait que Brock Bowers est totalement différent de Kyle Pitts? Puis qu'est-ce qui fait que c'est le meilleur depuis Travis Kelce, Terry?
Premièrement, tu ne compares jamais un gars de Florida Gators avec un gars de Georgia. Ça, c'est dégueulasse. Je pensais pas que tu me ferais ça aujourd'hui.
Excuse.
Wow. Kyle Pitts. Où commencer par Kyle Pitts? Kyle Pitts, ben, d'un pauvre gars, il n'a jamais eu de corps arrière élite. OK, je dis pas que Brock Bowers aurait besoin d'un corps arrière élite pour performer. Je pense qu'il peut performer avec pas mal n'importe qui en dedans de corps arrière. Mais Kyle Pitts, moi, Kyle Pitts, oui, mais non, j'y ai jamais cru plus qu'il faut. C'est dommage, on n'a pas fait de podcast dans le temps de Kyle Pitts. Moi, Kyle Pitts, c'est un peu comme bust. Je le voyais comme un bust. Puis à date, il bust. Je comprends pas c'était quoi le hype avec Kyle Pitts. Tu sais, oui, il était gros, c'était une machine physique, mais il me semble qu'il manque quelque chose à Kyle Pitts. Il est pas complet. comme joueur de football. Il manque, je ne sais pas si c'est les mains, je ne sais pas si c'est le route running, mais tu le regardes jouer, on dirait que c'est comme pas naturel. Tu regardes les gros tight ends de la NFL, les top guys. Là, tu parles de Kelce, tu parles de George Kittle. Tu regardes ces gars-là jouer, puis tu vois quelque chose en eux. Tu vois le tight end se courir, faire un tracé, attraper le ballon. C'est des gars puissants, c'est des gars forts qui vont aller matcher, des outside linebackers qui vont être physiques, qui vont être des menaces dans Red Zone. Tu regardes Kyle Pitts, il manque de quoi? D'indescriptible, mais il manque de quoi? Puis c'est comme le, mettons, le X-Factor qu'on appelle, il l'a pas, mais pas du tout, du tout, du tout. Brock Bowers, il n'y a pas juste le X-Factor, c'est lui qui définit le X-Factor. C'est le gars que tu vas avoir confiance dans ton équipe. La valve de sûreté, il va être featured comme wide receiver 1 sur plusieurs jeux, de peu importe l'équipe où il va aller. Je te le dis là, mets ton money sur Brock Bowers.
Mais je m'excuse encore d'avoir comparé un gars de Florida avec Georgia. Je voulais pas...
Florida, tu peux pas faire ça à un gars de Georgia.
Je voulais pas te passer, Terry.
Wow, une des plus grosses rivalités dans NCAA. Wow, je pense que je quitte le podcast.
Terry, je vais y aller avec ton top 5 des Titans pour cette année.
Bowers numéro 1, Jatavion Sanders numéro 2 à Texas. Si Bowers n'était pas là, ça serait lui le numéro 1. Moi, c'est peut-être numéro 3, un petit... J'en ai parlé quelques fois depuis le Combine. Theo Johnson à Penn State, c'est un Canadien. On souhaite toujours du succès aux gars de chez nous. On n'en a pas beaucoup dans la NFL. La NFL, c'est très américain. Fait que quand on a des Canadiens, encore plus des Québécois qui peuvent monter, ben, on les pousse, on en est fiers. Fait que Theo Johnson, moi, troisième. Dallin Holker, que... Il n'y a rien de tellement spécial, mais il ressemble à Allen dans le film Hangover. Fait que moi, il me semble juste d'y voir la face. J'irais à Vegas avec ce gars-là, avec ses cheveux longs, sa barbe. Je le vois à Vegas, j'aurais du fun avec. Fait que Dallin Holker, juste parce que j'aime la face. Et numéro 5, Ben Sinnott de Kansas State. Le gars est solide. C'est un animal. J'aime beaucoup quand il bloque. C'est un gars puissant, là. C'est un gars qui va vraiment protéger ton corps arrière en situation de blocking, capable d'attraper des ballons aussi. Ben Sinnott, Kansas State.
Robbie, ton top 5 maintenant?
Rien pour dire, Brock Bowers et Josh Kittle 2.0, Titan générationnel, et haut la main numéro 1, haut la main numéro 1 l'an dernier aussi. Par contre, par la suite, ça se corse. Je trouve qu'il y a une bonne drop là. On est loin de la QV de l'an passé. Par contre, je vais y aller. Quand même d'une prédiction audacieuse, moi, je suis un grand fan de Dallin Holker, de Colorado State. Je trouve que le gars, il a du chien, il a un work ethic, il est excellent en red zone. C'est un gars qui a des belles capacités au niveau de ses receiving abilities. Je l'aime bien. Ensuite, j'irai avec Jatavion Sanders, justement, de Texas. Ben Sinnott, qui est un bloqueur incroyable, un peu comme Terry a dit. Puis, je finirai aussi avec soit Theo Johnson de Penn State qui est canadien, sinon Kate Stover, Ohio State, qui a montré des belles choses aussi là, dans les deux dernières années.
All right. FX?
Je sais pas vraiment. C'est pas la position sur laquelle je me suis plus... j'ai fait mes devoirs parce que je sais que cette année, à part Brock Bowers, c'est un sacré creux. Je vais vendre quand même beaucoup Theo Johnson. C'est pas le tight end le mieux placé pour bloquer, mais c'est une machine en red zone. C'est un gars qui va aller te pogner le ballon solidement. Il va aller, c'est le gars que tu vas aller chercher dans des situations serrées, justement, en red zone. T'as pas ton running back, ça marche pas. Tes receveurs se font tout pogner. Lui, avec son 6 pieds 6, il va aller s'étendre. Il va aller te faire une belle petite course. C'est pas le gars le plus... c'est pas le gars avec un espèce de burst de première seconde, mais il reste quand même assez rapide. Je me rappelle plus, tu sais, il a couru 4.57 sur le 40 verges avec son 6 pieds 6. On peut quand même se permettre de l'applaudir. Il y a définitivement quelque chose à faire avec Theo Johnson. Ça ne sera pas nécessairement la superstar dès demain matin, mais c'est quelqu'un que j'ai à vendre dans cette espèce de dans cette cuvée de tight end. C'est après Brock Bowers, évidemment, c'est Theo Johnson.
All right, fait que je pense que ça faisait le tour pour les tight end. Sincèrement, j'étais sûr que c'était une bonne cuvée cette année. Ça a l'air, je me suis trompé d'année. C'était pas mal l'an dernier, mais pas plus grave que ça. Me semble que j'avais parlé avec quelqu'un, puis la personne m'a dit que cette année c'était vraiment une bonne année avec Brock Bowers, puis tout. Mais écoute, c'est vrai que la personne s'est trompée. Moi, je suis pas la personne qui écoute le plus d'NCA. That's why aujourd'hui, je voulais vous poser le plus de questions possible pour peut-être les personnes justement qui ont moins de temps pour regarder la NCAA aussi. On sait que Terry, Robbie, vous en regardez énormément. Même toi, FX, tu fais quand même énormément tes devoirs. Et puis, les boys, c'est pas mal ce qui wrap up le podcast. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Avant tout ça, je voudrais souhaiter la meilleure des chances à un Québécois qui s'est déclaré pour le draft, Jeffrey Quentin Harcoux, qui est un produit du Cégep de Garneau, un gars qui a joué à Lesley, à Lévis, direct à côté. Il est un petit peu plus vieux que moi, mais il est en secondaire 5, je suis en secondaire 1, puis tu sais, je l'ai vu, ce gars-là est un monstre. Il aime faire mal aux gens, puis c'est un gars qui est à l'Université de Memphis. Il s'est déclaré pour le draft, on lui souhaite la meilleure des chances, puis on espère qu'une des équipes de la NFL va le repêcher au draft la semaine prochaine. Donc les boys, merci d'avoir été là avec moi ce soir. Il va y avoir d'autres épisodes de podcast. Je sais que les gars du Fantasy Podcast avec Gas, probablement, qui vont en faire un. Donc, c'est pas mal le wrap-up du draft 2024 de la NFL. On a toutes, je pense, assez hâte de voir puis d'enfin avoir les réponses à nos questions de qui s'en va là, d'enfin faire nos foutus draft dynasty, puis de savoir que, lui dans telle position, lui dans telle position. Il y a beaucoup de draft dynasty là, que les gens attendent de savoir où est-ce que la personne s'en va pour est-ce que je change mon first pick, est-ce que je le change pas. Fait que c'est toutes des affaires aussi. Là, il y a un podcast qui va s'en venir après le draft pour justement parler des échanges, parler de nos downs, nos upgrades, avec selon la situation dont le joueur est tombé. Fait que ça ressemble pas mal pour ça pour la suite. Suivez Trop Fort pour la Ligue sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, même sur Twitter aussi, on est là. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, un bon draft, puis on se revoit à la prochaine. Merci, boys.
Yes, à plus. Merci.